Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h.
Bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Elle est lancinante ou alors oppressante, elle est fréquente, intermittente, elle est entêtante. Quand elle est constante, on dit alors qu'elle est chronique, elle peut être psychosomatique, elle est parfois neuropathique et résistante aux antalgiques. Elle est confuse, sourde ou diffuse. Ce matin, c'est comme des coups de couteau, ce soir, c'est des coups de marteau. Assénée là, et là, et là, ça cogne partout, je sais pas pourquoi. Elle est aiguë, c'est grave docteur, je crois que j'ai mal à ma douleur. Ouais, la douleur physique peut être d'autant plus invasive qu'on peine à l'expliquer, qu'on peine à se faire entendre par nos proches, par le corps médical. Et pourtant, il faudrait savoir l'écouter, savoir en parler pour peut-être un jour le gagner, ce combat. C'est ce qu'on vous propose de faire ce matin avec deux personnes que je suis ravie de recevoir. Arrivé fraîchement de Montréal, il a la blouse aussi blanche que le verbe prolifique, le plus humaniste des généralistes, ex-médecin engagé, devenu romancier à succès. Martin Vinclair, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Alain Gagnon.
Bonjour.
Vous êtes, vous, algologue, spécialiste de la douleur et de ses traitements. Vous exercez au centre de la douleur du pôle Santé Sud au Mans. Et vous vous êtes croisés tous les deux quelque part au-dessus de l'Atlantique, certainement, pour écrire à quatre mains ce livre, Tu comprendras ta douleur, et ses foisonnants, inédits, à mi-chemin entre le plaidoyer éthique et le précis scientifique qui nous servira de fil rouge pendant toute cette émission. Lui nous apportera, nous injectera de la philo quand il faut, là où il faut, de la philo et des belles lettres. Julien Bisson, bonjour.
Bonjour Julien.
Vous êtes rédacteur en chef au 1 L'Hebdo et la prescription littéraire du jour, en un mot, ce serait ?
On va parler d'Emmanuel Carrère.
Ah bah très bien, développement et arguments promis dans moins d'une demi-heure, avant, pendant, après, on vous attend par écrit sur notre page Facebook ou sur l'appli France Inter ou bien en direct au téléphone au 01 45 24 7000. Vous le savez, cette émission se fait avec vous.
France Inter, grand bien vous fasse, Julia Foyce.
Et avec Marie-May au bout du fil, oui, parfois on parle encore de fil, même en 2019. Bonjour Marie-May.
Bonjour.
Vous avez 31 ans aujourd'hui, vous êtes atteinte de fibromyalgie, pardon, une maladie qui touche les mécanismes de contrôle de la douleur et qui se manifeste entre autres par des douleurs diffuses, continues, à la fois articulaires et musculaires. Pour vous, tout a commencé il y a 6 ans, vous aviez 25 ans, à ce moment-là vous êtes créatrice de bijoux. Et que se passe-t-il Marie-May ? Racontez-nous les premiers symptômes, comment petit à petit la maladie s'incruste dans votre vie.
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais créatrice de bijoux à côté de mon travail. J'étais aide à domicile de personnes âgées et du coup, j'ai eu les canals carpiens. Donc je me suis fait opérer de l'un et de l'autre à un mois d'intervalle. Et normalement, on doit mettre 3 mois pour que les mains se remettent normalement. Mmh. Et donc au bout de 3 mois, malheureusement, d'autres douleurs se sont déclenchées dans mes mains et dans mes bras, qui n'avaient plus rien à voir avec le canal carpien, parce que j'étais retournée voir mon chirurgien qui m'avait dit que tout s'était bien remis, il n'y avait aucun souci avec ça. Mmh. Donc là, il a fallu commencer à voir avec mon médecin qu'est-ce qui se passe, quoi, parce qu'on ne comprenait pas ces nouvelles douleurs qui devenaient vraiment handicapantes, encore plus que le canal carpien, justement, quoi.
Et on peut imaginer qu'à la douleur physique, il y a une forme, quand on ne sait pas en plus ce qu'on a, d'errance morale, on doit se sentir un petit peu perdu. Comment vous vous sentiez, vous, à ce moment-là ?
C'est ça. J'étais complètement perdue, j'étais démunie parce que j'étais jeune. J'étais justement à côté de ça, donc créatrice de bijoux, j'adorais, j'étais hyper active. Donc je faisais plein de choses avec mon petit garçon qui à l'époque avait 3-4 ans. Ça a été le choc à cet âge-là de devoir tout arrêter, de devoir. J'étais complètement alitée, j'étais allongée, j'étais.
On vous aidait.
Je pouvais plus tenir debout plus d'une heure.
On vous aidait, on vous comprenait, on vous écoutait.
Non, enfin mon conjoint oui, mais c'est vrai que mes proches ne comprenaient pas quoi. Enfin mes amis non plus. C'était une maladie qu'on ne connaissait pas. Moi-même, avant d'avoir été diagnostiquée au bout de 6 mois, après avoir fait plein d'examens comme des prises de sang, la radio, la scintigraphie, le scanner, l'IRM, c'est là qu'on a pu me dire que j'étais atteinte de fibromyalgie. Et même moi, je ne connaissais pas cette maladie. Sinon, ce qu'elle allait me faire, ce qu'elle me faisait. Mmh. Quand j'ai été me renseigner, quand j'ai vu tous les points douloureux, je me suis dit, bah, c'est moi. Non. Comment je vais faire, quoi.
6 ans plus tard, justement, Marie-May, comment faites-vous et comment allez-vous ?
Ça commence à aller mieux, mais je suis toujours autant douloureuse. En fait, ça va mieux dans le sens où j'ai changé mon train de vie, où j'ai accepté la maladie, parce qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu l'incompréhension, la colère, le refus et le rejet de la maladie, parce que j'étais trop jeune, je ne voulais pas calmer mon hyperactivité, mon envie de faire plein de choses. Donc aujourd'hui j'ai appris à vivre avec, en fait. Au lieu de faire, par exemple, un exemple concret de femme à la maison avec des enfants, au lieu de faire le ménage toute la journée, enfin en une journée que tout soit fait, et ben je vais le faire petit à petit dans la semaine, chaque jour un petit peu, quoi.
Pour le travail, vous faites comment ?
Alors je ne peux plus travailler depuis que je suis malade, parce que je ne peux pas rester plus d'une heure debout ou plus d'une heure assise. Il faut que je fasse des temps de repos allongés. Donc il a fallu que je réfléchisse à une reconversion. Parce qu'aucun métier n'est capable aujourd'hui d'être faisable avec mon état. Je marche en canne, j'ai des attelles aux bras régulièrement, j'ai mal au dos, donc j'ai des ceintures dorsales, etc. Donc je me suis redirigée vers la peinture. Donc je travaille de chez moi. Je peins et je vends mon travail.
Merci Marie-Mée pour votre témoignage et bravo pour votre courage. Je vois le docteur Alain Gagnon prendre des notes depuis le début de votre intervention. Vous notiez quoi précisément ?
L'histoire de cette patiente qui est assez typique en fait de l'évolution, enfin du début d'une maladie qui est souvent incomprise par les patients, parfois par les médecins, qui conduit très souvent à une multiplicité d'examens complémentaires avant qu'on arrive à avoir un diagnostic.
La fibromyalgie est particulièrement difficile, je crois, à diagnostiquer. On l'a nommée en 76, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Donc, est-ce que c'est un cas spécifique parce que la fibromyalgie est difficile à identifier, ou est-ce que finalement c'est parce que la douleur, on considère pas forcément que ce soit quelque chose à prendre en compte?
Bien souvent, comme l'a expliqué Marie, c'est que au départ les patientes commencent par avoir des douleurs qui sont situées à une localisation musculaire ou articulaire, et ces douleurs vont induire par le médecin qui va prendre en charge le patient des examens complémentaires qui vont en général n'aboutir sur rien. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité des examens complémentaires qui reviennent négatifs, aussi bien les examens radiologiques que biologiques. Et effectivement, le patient ne comprend pas qu'on ne trouve pas. Si le médecin n'évoque pas le diagnostic, effectivement, la patiente, très rarement le patient, parce que ça touche essentiellement les femmes, va errer pendant un certain nombre d'années avant que le diagnostic soit fait. Quoique actuellement, on est quand même plus attentif à ce diagnostic.
Notamment sur ce cas-là de fibromyalgie, sur cette maladie-là. L'histoire de Marie-Mère raconte aussi à quel point, au fond, on considère que c'est quand même un truc de chochotte, la douleur, non, Martin Winkler ? On met un certain temps avant de la prendre au sérieux.
On est dans une culture dans laquelle la douleur n'est pas un symptôme qu'on croit sur parole. C'est pas spécifique à la culture française, mais c'est très particulier à la culture française. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mal, en fonction du contexte sociologique ou du contexte familial, on l'autorise à exprimer qu'il a mal ou non.
Et puis, on est dans une culture où on valorise celui ou celle qui est dur au mal. Quoi. C'est bien.
Il y a en plus la douleur, pour le catholicisme, la douleur est rédemptrice. Donc,
faut supporter, faut encaisser.
Un, si t'as mal, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc, deux, faut supporter. Et trois, si t'es un homme ou si t'es une femme correcte,
tu vas encaisser, tu vas serrer les dents.
La deuxième chose, on en reparlera plus tard, mais la deuxième chose, c'est que les femmes sont défavorisées par rapport aux hommes. C'est que quand un homme dit « j'ai mal », on le croit toujours, parce que d'habitude, ils ne se plaignent pas. Tandis que quand une femme dit « j'ai mal »,
ils ne se plaignent pas.
Ils ne sont pas autorisés.
On les entend quand ils ont mal à la tête.
Oui, mais pas chez le médecin.
D'accord.
Ils ne vont pas chez le médecin.
Maintenant, pour que ça dure un peu plus longtemps.
Donc quand ils vont chez le médecin, les médecins n'ayant pas l'habitude de les voir, ils les croient tout de suite. Quand les femmes vont voir le médecin et les femmes consultent pour des choses qui ne sont pas des maladies, pour des tas de raisons, surtout et souvent pour avoir de l'information, quand elles vont consulter et qu'elles disent j'ai mal, on a tendance, enfin beaucoup de médecins ont tendance à dire bah oui mais c'est normal. Par exemple, vous avez mal pendant vos règles, c'est normal, vous avez vos règles. Non, c'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles. Et par extension, tous les symptômes en particulier, c'est ce que disait Alain tout à l'heure, tous les symptômes qui ne sont pas identifiables immédiatement, c'est-à-dire qui ne renvoient pas à une maladie visible ou identifiable tout de suite, sont considérés comme un peu imaginaires, comme c'est dans la tête, quoi. Bon, bah, ça doit être psychologique, vous êtes fatigué, vous êtes déprimé, vous avez des problèmes de couple, etc. C'est pour ça que vous avez mal. Non.
Alors que la douleur joue tout son rôle. Et ça, vous aurez évidemment l'occasion de nous l'expliquer. Simplement un chiffre, celui du livre blanc de la douleur, publié par un collège de professionnels que vous citez l'un et l'autre en ouverture de votre livre. 12 millions de Français souffrent de douleurs chroniques. Pourtant, 70% d'entre eux ne reçoivent pas de traitement adapté. Vous nous direz pourquoi. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Et avec vous, bien sûr, qui nous écoutez, allez, venez, rejoignez-nous sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse, sur l'appli France Inter. Je crois que j'ai une patate dans la bouche, moi, ce matin. Vous allez bien vous marrer. Ou bien en nous appelant à ce numéro 01 45 24 7000. Yeah, I'd like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come. Jack be nimble, Jack be quick, Jack kept the spoon on the candlestick. Dope stick pimpin' on the one-trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, you know I got to have that medicine. That prescription medicine, baby. You know, purple, orange, green. Jack starts hanging around with the fiends. Got strung out, sold the cow for beans. Told young wifey, I love you, honey, but you gotta hit the streets, go and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, and the more dedicated, the more medicated. Can you feel me? Girl, my love's gonna last just as long as my high. And I'm high all day, every day. You can trust every word I'm gonna say will be a lie. Yeah, I lie sometimes. What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes, baby? Now dig this. Jack starts to track up and down the hill. Dr. Walker figure ace what he told the jail. Come rain, come shine, come snow up the sunny. Get the fuck out, girl, and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, they say you can't buy me love, but you damn sure can buy me bud. Girl, my love's gonna last just as long as my high. Oh, I'm so high right now. How about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie. Liar, liar, pants on fire. Girl, I love you. I love you, though. Le rastapap du rap West Coast Snoop Dogg dans la médecine était à mon avis à peu près aussi antalgique et qu'illégal. À la technique ce matin, Kevin Pelot et Louis Audebert à la réalisation, Stéphanie Texier, Alexia Rivière et Clara Mario assurent la préparation et la programmation de cette émission avec Julia Macares pour la documentation, mais pas que. Voilà, vous savez tout, ou presque, alors on peut y aller.
Moi aussi j'ai des bourdonnements et moi aussi je vois des papillons, là.
Grand bien vous fasse.
C'est un grand malade.
Mais justement, c'est pour ça que je suis là, parce que je suis très malade.
Sur France Inter.
Tu comprendras ta douleur, c'est le livre qui nous a donné envie de monter cette émission ce matin. Ces deux auteurs sont avec nous, Alain Gagnon, algologue, et Martin Vinclair, ex-généraliste, toujours romancier, toujours engagé. Et vous ouvrez quasiment votre essai là-dessus, une métaphore pour comprendre à quoi sert la douleur et comment elle fonctionne. Je commence. Le corps humain est un paquebot et je laisse la suite à qui ? Qui se lance, Alain Gagnon, Martin Vinclair, on y va ?
La métaphore du paquebot, c'est moi qui l'ai...
Alors allez-y.
Qui l'ai mis sur l'eau.
Uh-huh.
Oui, vous imaginez que vous êtes un paquebot de luxe. Mmh. Votre corps est un paquebot de luxe. Et un paquebot de luxe, pour pouvoir circuler sur un terrain qui est un terrain changeant, qui est la mer, il faut qu'il y ait plein de systèmes de sécurité. Il faut que vous puissiez observer à l'extérieur, mais il faut aussi que vous puissiez observer à l'intérieur ce qui se passe. S'il y a une avarie dans les machines, s'il y a un trou dans la coque, s'il y a du feu dans une coursive, etc. Et donc, notre système nerveux, c'est-à-dire le cerveau et tous les nerfs qui y sont attachés et tous les systèmes neurologiques qui y sont attachés, c'est le système de contrôle de l'intérieur de l'organisme, du paquebot. Chaque fois qu'il y a une avarie, imaginons que vous mettez, hier mon fils me dit, je me suis coupé en coupant du pain. Bon, il s'est coupé le bout du doigt en coupant du pain. Il a senti tout de suite qu'il s'était coupé. Pourquoi ? Parce que l'effraction de la lame sur la peau provoque un signal, mm-hmm. et ce signal est ressenti par le cerveau comme une douleur. C'est pas le même signal que quand vous touchez la peau de votre compagnon ou de votre compagne, qui est une sensation tactile. Le cerveau est tellement fin qu'il peut faire la différence entre un contact et puis quelque chose qui est une effraction, qui est une coupure. Donc la douleur, c'est quelque chose qui est utile.
Donc c'est précieux même.
Et c'est très précieux. Les personnes qui ont ce qu'on appelle une insensibilité congénitale à la douleur sont des gens qui souffrent beaucoup parce qu'elles n'arrêtent pas de s'abîmer. Parce que chaque fois qu'elles se cognent ou qu'elles se brûlent, elles ne le sentent pas.
Elles ne se rendent pas compte.
Donc, par exemple, il y a un certain... Si elles font une crise d'appendicite et qu'elles ne sentent pas leur crise d'appendicite, elles peuvent mourir de la crise d'appendicite.
Ouais. Bon.
Donc la douleur, c'est quelque chose qui fait intrinsèquement partie de notre fonctionnement intérieur. Et qui est lié, et ça on essaye d'insister là-dessus au début du livre, c'est que le cerveau et le corps, c'est la même chose. Le cerveau fait partie du corps, le corps est relié au cerveau, le cerveau est relié au corps. Donc tout ça travaille en synergie, en action conjuguée. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est pour ça que les émotions agissent sur la douleur. Si vous prenez l'exemple tout simple de l'enfant qui se cogne, et puis l'enfant de 3 ans qui se cogne, et puis qui va voir sa mère, il s'est cogné le front, sa mère lui met un bisou sur le front, elle le console, pouf.
Il a plus mal, le bisou magique.
Il a plus mal parce que l'effet placebo du soin que sa mère prend sur lui lui fait fabriquer des endorphines qui calment la douleur. Donc on a aussi des systèmes qui contrôlent la douleur à moins, c'est-à-dire qui l'atténuent, qui la font disparaître. Ouais. Et c'est toute cette complexité qui fait que voilà, on est des paquebots de croisière et on a des systèmes qui...
Vous racontez aussi comment la non-prise en compte de la douleur peut générer une anxiété qui, à son tour, décuple la sensation de douleur, etc., etc. Vous distinguez à partir de là deux grands types de douleurs, les douleurs aiguës et les douleurs chroniques. Alain Gagnon, en quoi ces catégories sont importantes? Qu'est-ce qu'elles induisent, en fait, comme différence? C'est quoi les deux grandes familles? Comment on décrit les deux grandes familles de douleurs?
Bien, effectivement, c'est très important parce que la finalité n'est pas la même. La douleur aiguë, c'est un signal d'alarme, en quelque sorte. Hein. On est prévenu que quelque chose ne va pas. Il y a une effraction au niveau de notre organisme, soit sur notre peau extérieure ou de nos organes internes. Cette douleur aiguë, en général, on fait rapidement le diagnostic. On a des traitements adaptés. On sait très bien maintenant traiter les douleurs, ce que l'on appelle nociceptives. Le plus souvent, c'est une douleur de mécanisme nociceptif. On reviendra tout à l'heure sur les mécanismes de la douleur, parce que comprendre la douleur, c'est aussi d'abord comprendre comment on a mal et comment ça marche. Ouais. Et effectivement, lorsque l'on passe à une douleur chronique, c'est-à-dire une douleur qui va durer au-delà de 3 mois, on est dans une autre appréhension de la part du patient qui va se trouver être obligé de vivre avec un symptôme constant, qui va avoir un retentissement à la fois affectif, émotionnel, comportemental, cognitif également. Il va envahir sa vie parce que ça va être des douleurs quotidiennes, soit permanente, continue ou discontinue. Et donc, cette douleur chronique va avoir un retentissement sur sa vie professionnelle, sur sa vie amicale, sur sa vie familiale, avec toujours la nécessité de ce que l'on a dit tout à l'heure, ce que Martha Winkler a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la reconnaissance de sa douleur, qui n'est pas toujours obligatoirement reconnue par l'entourage, par les proches, par l'entourage professionnel. Et le patient se retrouve isolé, seul, avec sa douleur parfois, jusqu'à temps peut-être qu'il comprenne mieux et qu'il arrive à l'expliquer. Donc c'est aussi pour cela que ce livre nous paraît important, c'est à la fois faire comprendre au patient les mécanismes de la douleur, le pourquoi il a mal, et quelles sont après les techniques, les méthodes que l'on peut mettre en œuvre pour la prendre en charge. Et je dirais aussi pour les médecins. Pour les soignants.
Alors ça, on va y venir, bien évidemment. Mais là, normalement, depuis le début de cette émission, un certain nombre de douleurs se seront réveillées en vous. Au moment où on se parle, vous dites sans doute « Ah mais oui, mais là j'ai mal, et puis là aussi, et puis peut-être partout en fait. » Les plus rapides d'entre vous sont déjà sur Internet en train de chercher la cause probable de cette douleur. Vous savez quoi ? Restez là, écoutez plutôt cet épisode de la série « Bref, l'hypochondriaque » de et avec Kyan Kojandi.
Bref, j'étais en train de me mettre des gouttes dans le nez. Mon frère m'a dit...
T'es vraiment hypochondriaque.
J'ai dit...
Non, je fais juste attention.
Je fais juste attention. Quand j'ai un doute, je vais sur des forums. Généralement, après les avoir consultés, je suis sûr d'avoir une maladie orpheline. J'ai d'ailleurs tout le temps 2 symptômes sur 3.
Frémissement de sang, fièvre, tout... C'est sûr, je l'ai.
Si quelqu'un me dit que j'ai l'air fatigué...
J'ai l'air fatigué.
Je me sens fatigué. Quand je vais bien, je m'inquiète, ça cache quelque chose. Il me suffit de lire les effets secondaires des médicaments pour que je les aie. Je lis aussi les contre-indications en cas de grossesse et d'allaitement, on sait jamais. Dès qu'un pote a besoin d'un médicament, il passe chez moi avant de passer à la pharmacie.
Tu veux du 500 mg ou du 1000?
Si quelqu'un tousse, je m'éloigne. Si quelqu'un éternue, je le hais. Quand je vais aux toilettes, je me lave les mains. Avant et après, je ne touche aucune poignée. Quand j'ai mal à la tête, j'ai une tumeur. Quand j'ai mal au ventre, j'ai une tumeur. Quand j'ai mal à l'orteil, j'ai une tumeur.
Je vous vois sourire tous les deux, Martin Winkler et Alain Gagnon. Et quel est votre regard de médecin sur la figure de l'hypochondriaque, Martin Winkler ?
Moi, je crois qu'il y a très peu de gens vraiment hypochondriaques. Je pense qu'il y a des gens anxieux et que l'anxiété, c'est quelque chose qui peut être plus ou moins intense. Je voudrais juste dire que quand j'étais étudiant en médecine, dès que je me mettais à lire les livres de médecine...
Oh mon Dieu, oui, j'imagine.
Non, moi, ça fonctionnait à l'inverse. Non, justement, je me disais que si je lisais la symptomatique de toutes les maladies, j'en aurais aucune. Bon, ce qui est tout à fait aussi conjuratoire et aussi, signe d'anxiété que le fait d'être anxieux parce qu'on a des symptômes. Je crois que j'ai vu des gens qui étaient très très angoissés à l'idée d'avoir des maladies et qui en fait ont voyé leur angoisse diminuer quand on les écoutait d'abord, puis quand ensuite on leur disait, bon, voilà, alors la maladie que vous avez peur d'avoir, c'est ceci, ceci, cela. Et là, ils voyaient tout de suite que non, en fait, ils avaient pas ça. Mais les hypochondriaques vrais, je pense que ce sont des gens qui sont très anxieux et qui ont jamais été rassurés. Je crois pas qu'il y ait de maladie véritable.
Mais c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est que c'est une façon aussi d'évacuer le débat, de se dire c'est dans la tête et puis voilà.
Ouais.
Le problème avec la douleur, c'est qu'elle reste quand même assez mystérieuse parce que vous l'écrivez, elle est aussi universelle au sens où c'est une expérience qu'on a tous fait qu'intime. Parce que avant tout, Alain Gagnon, j'allais vous appeler docteur Gagnon dans 2 minutes, je vous demande de me prendre l'attention. Avant tout, c'est une question de perception.
Oui, bien sûr. Oui,
ça qui est compliqué, c'est que c'est très singulier finalement.
Bien sûr, la douleur c'est effectivement une perception et cette perception, elle va être différente d'une personne à l'autre parce que le vécu de chacun en fait est différent. Le vécu familial, le vécu quand on a été tout petit, quand on a grandi, les différentes expériences que l'on a pu avoir.
Mais ce qui est compliqué pour le médecin du coup, c'est que on n'est pas égaux devant la douleur en fait.
Non, on n'est pas égaux. On voit bien qu'il y a, on en parlait tout à l'heure, qu'il y a une différence entre, sur le plan de la génétique déjà, sur le plan de la du sexe. On a bien noté que les femmes étaient plus sensibles à la douleur et avaient une fréquence de douleur plus importante que les hommes, où elles arrivaient à en parler davantage. Et donc effectivement, cette perception a des retentissements très très importants sur le plan émotionnel.
Et surtout, le problème, c'est que les médecins ne sont pas encore complètement, tout à fait, tous formés
pour entendre.
Pour entendre et pour prendre conscience du fait que, comme c'est une expérience intime, il n'y a pas de comparaison à faire entre les différentes personnes qui ont mal.
C'est-à-dire... Vous dites, c'est invérifiable, mais c'est indiscutable.
Bah, c'est comme quand vous dites, j'ai faim. Si quelqu'un vous dit, mais non, c'est pas vrai, t'as pas faim.
C'est
comme les gens qui entendent des voix. Maintenant, on sait qu'il y a des gens qui entendent des voix, que c'est pas du tout un signe de maladie mentale, mais que c'est un phénomène neurologique. Bah, on peut pas contester la douleur. C'est quelque chose qu'on doit accepter. Ouais. Quand quelqu'un dit j'ai mal, eh ben, elle a mal ou il a mal.
Allez hop, Julien Bisson, quand on quitte les cabinets médicaux pour se plonger dans la littérature, et là, ça nous dit quoi de la douleur, s'il vous plaît?
Eh bien, cette semaine, justement, c'est pas la philosophie, mais la littérature qui est appelée au chevet des malades, au secours des flappies, à la rescousse des souffreteux. C'est au roman qu'on va essayer de prêter quelques pouvoirs pour soulager les peines et délivrer des tourments du corps. Mais pour savoir quel livre vous conseiller, il faudrait déjà comprendre les symptômes dont vous souffrez, comme le knock de Jules Romain. Je vous demanderai bien si ça vous chatouille ou si ça vous gratouille. Ce knock pour qui les gens bien portants ne sont d'ailleurs rien d'autre que des malades qui s'ignorent, ça c'est pour ceux qui pensent que cette émission ne les concerne pas. Alors de quel mal souffrez-vous? L'armoire à remèdes littéraires est pleine, un bon imprimé vaut toujours mieux qu'un comprimé. Peine de cœur, allez piocher chez Duras. Alcoolisme, faites-vous un shoot de Shining. Douleur de dos, il y en a plein chez David Fuenkinos. Problème de prostate, demandez à Philippe Roth. Difficulté de respiration, voyez chez Boris Vian. Constipation, Henri Miller vous promet de vous la faire passer avec son savoureux lire au cabinet.
Je
vous l'avais dit, j'ai de tout dans ma pharmacie.
Mais pour la douleur, pour la grande douleur, Julien.
Alors, pour la grande douleur, la douleur intense, la douleur lancinante, celle qui ne vous quitte pas parce que la maladie en fait d'état, il vous faut un traitement de cheval. un livre si puissant qui peut vous servir un temps d'anesthésion. Un livre comme le formidable « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carrère. Parce que l'auteur y érige plusieurs capitales de douleur à travers une poignée de destin. Celui d'un couple ayant perdu leur petite, leur fille, lors du tsunami de 2004. De trois fillettes dont la mère est emportée par un cancer du sein. D'un magistrat amputé d'une jambe après un cancer lui aussi, et qui lutte comme il le peut pour aider les ménages victimes du surendettement. Ces êtres ravagés par la douleur, Emmanuel Carrère les a rencontrés, a parlé avec eux, a compati avec eux avant de raconter leurs histoires. Et si son livre est si mémorable, c'est d'abord parce qu'il applique à lui-même cette leçon « La pire des souffrances, c'est celle qu'on ne peut pas partager ». Il y a des pages terribles dans ce livre, de celles qui vous dressent les poils et vous étreignent le cœur, sur le deuil, la souffrance physique, le déchirement intime. Il y a des descriptions éprouvantes pour dire la progression des métastases, le cancer qui vous plie, le corps qui peu à peu accepte sa défaite. Mais il y a surtout des pages déchirantes sur l'amour qui unit les êtres, par-delà la maladie et le chagrin, sur le courage des héros du quotidien, ces hommes et ces femmes qui doivent affronter la douleur, l'accepter, jamais l'oublier, mais apprendre à vivre avec, sans rien perdre de leur dignité. Vivre, même diminuer, vivre tant que la vie est là et qu'il y a un proche pour soutenir votre bras. Alors pourquoi lire ces témoignages de douleur quand on y est soi-même confronté ? Eh bien pour se rappeler qu'on n'est pas seul. Pas seul à subir les affronts de la vie, pas seul à devoir trouver chaque matin le courage d'avancer malgré les coups durs du destin. Pas seul non plus pour les affronter ces douleurs qu'il faut pouvoir partager et non taire ou refouler. D'autres vies que la mienne, je le disais, c'est un traitement de cheval, mais le genre de cheval qui vous emmène loin. Pas de la chirurgie lourde qui ampute, qui délaisse de quoi que ce soit, non. C'est plutôt un baume qui vient appliquer une grosse couche d'humanité sur nos plaies à vif pour nous permettre de les supporter et d'avancer.
Merci Julien Bisson. Si vous aussi vous avez des plaies à vif, si vous cherchez du baume, vous subissez une douleur chronique ou aiguë, sans en comprendre l'origine, sans vous sentir ni entendu, ni entouré, ou bien ça y est, vous êtes suivi, soigné, traité, racontez-nous. Pour ça, vous le savez, vous pouvez nous écrire sur l'appli France Inter ou sur notre page Facebook, ou bien, encore mieux, nous appeler au 01 45 24 7000. On est là, on vous attend.
Chérie, tu cries, pourquoi ma chérie tu cries, pourquoi chérie tu cries, hier comme aujourd'hui, que tu gardes un mousse qui existe, relis d'amour tolé. Tu croyais que je m'en foutais, toi que je regardais pour moi, après que j'ai vu pour toi, toi tu m'as dit ça.
Johan Papa. papa Constantino, pourquoi tu cries? Eh ben parce que j'en ai envie, tiens, et j'ai surtout envie de vous dire que comme tous les matins, c'est Muriel Pérez qui signe notre programmation musicale. Vous en retrouverez bien évidemment toutes les références sur franceinter.fr à la page de Grand Bien Vous Fasse. Grand Bien Vous Fasse qui ce matin voyage au pays de la douleur en compagnie des docteurs Martin Vinclair et Alain Gagnon, co-auteurs de ce livre « Tu comprendras ta douleur » et c'est chez Fayard.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Julia Foyce.
Avec nous également ce matin, Julien Bisson, rédacteur en chef du 1, l'Hebdo, et puis Claire sur notre page Facebook, qui nous dit qu'elle est actuellement en errance médicale, accusée de nomadisme médical par le dernier rhumato, l'avant-dernier me disant que c'était dans ma tête. C'est dur d'être prise pour une folle, diagnostic probable spondyloarthrite. Probable signifie pour moi aucune réelle prise en charge et considération de mon état. Qu'est-ce qu'elle doit faire, Claire? Aller voir un énième médecin ou se rendre dans un centre de la douleur à ce stade, docteur Gagnon?
Bah, si le diagnostic qu'on lui a donné se trouve bien fondé, bien réel, il y a quand même des traitements et des thérapeutiques. Après, si ce diagnostic a été évoqué sans confirmation, effectivement, il faut éventuellement qu'elle s'adresse à un centre de la douleur pour peut-être approfondir les douleurs ou la douleur dont elle est, qu'elle subit, de façon à essayer de mettre un nom sur le mécanisme de la douleur.
Parce que là, on est dans le cas d'une douleur chronique où donc la douleur elle-même est devenue maladie et pas symptôme.
Alors si c'est un cas de spondylarthrite ankylosante, on est dans le cadre d'une maladie inflammatoire qui va donner des douleurs de mécanismes que l'on appelle nociceptifs qui pourront être traités par des anti-inflammatoires mais aussi par des traitements immunosuppresseurs qui peuvent améliorer grandement cette patiente.
Et je précise que dans votre livre, vous donnez la liste des centres de la douleur. Évidemment. Nous avons Isabelle en ligne avec nous. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Vous avez été opérée 3 fois pour une hernie discale et vous nous dites que les médecins ne vous croyaient pas quand vous disiez que vous aviez mal.
Alors oui, alors moi la différence c'est que j'avais pas d'erreur de diagnostic ou de errance de diagnostic. Effectivement, le diagnostic était posé, hernie discale, j'en ai eu 3 à différents étages. Et c'est surtout la première où, en fait, après avoir fait toutes les infiltrations, évidemment, traitements, etc., où la douleur est devenue chronique pendant des mois, et voire même un peu plus d'une année, où ma rhumatologue a fini par m'envoyer voir un chirurgien, puisqu'elle estimait que c'était sûrement opérable. Et j'ai rencontré ce chirurgien dans un grand centre à l'époque, enfin, c'était Cochin, donc un grand chirurgien. J'étais avec le staff, donc voilà. Je me suis retrouvée face à des médecins avec plusieurs internes, externes, pour voir si c'était opérable. Et au vu de mon scanner, de mes IRM, on m'a dit que, à part le syndrome de la balayette, sous-entendu, à part quand j'avais mal en passant l'aspirateur, qu'est-ce que j'avais, que ce n'était pas opérable et qu'on ne me croyait pas. Donc déjà, remarque sexiste, évidemment, hein, une femme qui a mal.
Syndrome de la balayette, oui.
Voilà. Ouais. Et heureusement, cette rhumato qui n'a jamais rien lâché et qui est géniale parce qu'il y a des médecins aussi géniaux, m'a envoyé chez un autre chirurgien qui lui a accepté de m'opérer et qui m'a cru. Et d'ailleurs, au moment de l'opération, lorsqu'il a ouvert, eh bien, les choses ne ressemblaient pas tout à fait aux images, c'était bien pire que ce qu'il ne pensait. Et à mon réveil, il m'a dit, voyez madame, on m'a toujours appris une chose pendant mes études, c'est effectivement regarder les images correspondant aux symptômes, mais surtout écouter le patient. Donc voilà, j'ai été opérée. Et heureusement que ce médecin a bien voulu m'opérer parce que j'en étais arrivée, j'étais quand même sous morphine, hein, faut quand même le dire. Voilà.
Merci beaucoup Isabelle d'être intervenue ce matin dans Grand Bien Vous Fasse. Je vois Martin Vinclair à la fois secouer la tête, agiter les épaules, lever les sourcils. Enfin, j'ai l'impression que votre témoignage suscite beaucoup, beaucoup de réflexions dans votre esprit, Martin Vinclair. La première d'entre elles, ce serait quoi?
En fait, c'est comme le témoignage précédent, c'est le fait qu'une personne qui souffre se voit opposée par des professionnels de santé un argument qui est non, c'est dans votre tête, ça n'existe pas. Ça, c'est inadmissible. Je veux dire, si vous entendez un jour un médecin vous dire c'est dans votre tête, vous changez de médecin tout de suite. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si quelqu'un vient voir un médecin en lui disant « Docteur, j'arrête pas de vomir depuis hier, j'arrête pas d'avoir la diarrhée », il est pas obligé de vomir sur son bureau et d'avoir la diarrhée sur le fauteuil pour le lui faire entendre. Le médecin le croit, il va le traiter. Bon. Et quand quelqu'un arrive avec une douleur, ça devrait être la même chose. Et ce n'est pas parce que le médecin ne voit pas ou ne comprend pas.
Moi, j'avais un mais prof, c'est ça qui se passe.
Oui, c'est ça qui se passe.
C'est de la mise en échec, l'ignorance, c'est de l'incompréhension.
Je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses, ouais. Et en particulier d'une attitude qui est une attitude qui est pleine de préjugés. C'est-à-dire que un certain nombre de médecins, et pas tous, hein, elle le dit très bien, il y a des gens qui l'ont cru, il y a des gens qui l'ont soigné, puis il y a des gens qui ne l'ont pas cru. Un certain nombre de médecins pensent que ce qui ne correspond pas à ce qu'ils savent n'existe pas.
D'accord.
Et donc, quelqu'un vient avec des symptômes qu'ils n'ont jamais vus, ou un tableau, ou une présentation, ou une façon de s'exprimer. Hein, le racisme, par exemple, c'est-à-dire le fait de ne pas croire quelqu'un, tout simplement, parce qu'il s'exprime pas comme vous, parce qu'il n'est pas du même milieu socioculturel, il n'a pas la même ethnie, il n'a pas le même langage, etc. Ça, c'est un obstacle extraordinaire à entendre que les gens souffrent.
Ce qui est terrible, c'est ce que vous écrivez, c'est qu'en fonction du groupe social auquel on appartient, on est plus ou moins écouté. Lou nous écrit, les médecins ne sont pas formés à la douleur. Vous confirmez, Alain Gagnon, il n'y a pas de formation. On ne leur explique pas pendant leurs études ce que...
Il y a une formation d'environ 20 heures sur l'ensemble des études médicales, donc ce qui paraît très peu. Le symptôme douleur, c'est quand même le maître symptôme des consultations, dans toute discipline confondue. Et c'est transversal, c'est-à-dire qu'on rencontre la douleur dans toutes les pathologies. Et effectivement, j'ai été médecin généraliste pendant 25 ans avant de me pencher vers la douleur. Et c'est vrai que ça a changé mon approche des patients. Ça a été un choc et un peu une découverte. Ce qui veut dire que l'ensemble de mes confrères qui ont été formés à la même époque que moi ont été dans les mêmes situations. Et donc, c'est quelque chose de terrible de se rendre compte de ça, que finalement, la prise en charge des patients douloureux n'est pas obligatoirement ce qu'elle devrait être.
Alors que c'est ce fameux système d'alerte extrêmement précieux dont on parlait en début d'émission. Parmi les groupes qui sont moins écoutés, il y a aussi les enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du cas des enfants, Martin Vinclair? On a mis un paquet de temps avant de prendre en compte leur
douleur. Pendant très longtemps, on pensait qu'un enfant qui disait rien, c'était un enfant qui souffrait pas. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire un enfant, en particulier les petits enfants qui sont au stade pré-verbal ou en tout cas qui parlent pas beaucoup, quand ils sont très très douloureux, ils se replient sur eux-mêmes. Et puis d'un seul coup, on s'est rendu compte que quand on leur donnait des antalgiques, ils se remettaient à jouer, ils se remettaient à babiller, etc. Donc il y avait une incompréhension. Et ça date de pas très longtemps, hein, des années 70-80. Donc, et moi, je me souviens avoir entendu un anesthésiste horrifié dire pendant très longtemps, j'ai cru que les enfants, s'ils disaient rien, ils avaient pas mal, et je continuais à faire des gestes chirurgicaux, par exemple, sans anesthésie. Bon,
je suis un bison qui est désespéré.
Des gestes chirurgicaux, comme simplement faire une paracentèse.
C'est-à-dire une paracentèse.
Quand on a une otite moyenne aiguë, on perfore le tympan avec un petit instrument qui permet d'évacuer le pus qui se trouve derrière.
Voilà, vous venez de subir un effet nocebo.
J'aime pas du tout. Alors, il y a effectivement autre groupe qui n'est pas écouté, pas pris en compte, c'est les femmes, vous l'évoquiez tout à l'heure, alors qu'elles ont des prédispositions génétiques qui font qu'elles sont plus facilement sujettes à la douleur, et elles sont aussi moins bien soignées. Alors, à la faveur des mouvements des militantes féministes, on entend de plus en plus parler de violences gynécologiques ou obstétricales. C'était le sujet du dernier documentaire d'Ovidie, diffusé sur Arte en juin dernier. Il s'appelait « Tu enfanteras dans la douleur ».
Très bon doc.
Ce que je peux dire, parce que je ne fais pas la conversation quand on a mal, c'est je leur dis « Faites une césarienne ». Parce qu'en fait, j'en peux plus. Je veux que ça s'arrête. C'est hyper douloureux. Et je me dis, la suite, ça va être quoi? Si ça fait mal comme ça. Et là, la gynéco dit « Bah non ». Non, c'est bon, on a presque fini. Elle s'en fout, en fait, elle regarde pas en haut. Elle regarde ce qui se passe en bas. Elle fait la technique, quoi. Elle fait la garagiste. Donc, non, c'est bon, on a bientôt fini. J'essaye de me débattre, j'essaye de me relever. Je lui dis qu'elle me fait mal, je lui demande d'arrêter plusieurs fois. Et bien sûr, elle arrête pas. J'ai toujours l'autre sage-femme qui m'appuie sur le ventre, qui me maintient aussi. C'est vraiment une sensation désagréable de se sentir comme maintenue de force, en fait, contre ma volonté. Là, c'est à ce moment-là que je sens comme des coups de rasoir. Elle est en train de faire l'épisiotomie comme ça, et surtout, elle a continué de la faire alors que je la suppliais d'arrêter et que je lui disais qu'elle me faisait mal, quoi.
Ça fait partie du package. T'es enceinte, tu accouches, tu souffres, et c'est normal.
Oui, alors c'est particulièrement vrai pour tout ce qui est effectivement les violences obstétricales. Je recommande la lecture du livre de Marie-Hélène Lay qui s'appelle Accouchement, les femmes méritent mieux, où elle démonte absolument toutes les toutes les violences qui sont exercées sur les femmes. Alors, il y a quelque chose qui est commun, si vous voulez, au problème général de la douleur et au problème de toute la santé des femmes. C'est ce point commun qui est qu'on ne les croit pas. On ne les écoute pas. On ne les croit pas. Et quand on les écoute, on dit ouais, « elles parlent trop, elles nous en disent trop ». Et puis quand elles disent quelque chose, on ne les croit pas. Il y a un préjugé qui est un préjugé à la fois sexiste, mais qui est aussi un préjugé de classe. Parce que si en plus c'est une femme racisée, ou si c'est une femme transgenre, ou si c'est une femme homosexuelle, on la croit encore moins. Je veux dire, bon, c'est-à-dire ça se cumule. Les préjugés sexistes et les préjugés de classe se cumulent, et ils sont inhérents au fait que pendant très longtemps, c'est de moins en moins vrai, mais ça l'a longtemps été, et la plupart des gens qui ont été formés comme ça sont encore en activité, pendant très longtemps, les médecins étaient formés pour penser qu'ils étaient une élite et qu'ils étaient moralement supérieurs aux personnes dont ils s'occupaient. Donc forcément, ils les regardent de haut. Quand vous regardez quelqu'un de haut, vous avez tendance à ne pas prendre au sérieux ce qu'il vous dit.
Alors, il semblerait tout de même que ça bouge, hein. Le Collège des gynécologues français vient d'annoncer la mise en place d'un label maternité bienveillante. Pour l'obtenir, celles-ci devront remplir une liste de 12 critères, dont des taux d'épisiotomie ou de césarienne proches des taux nationaux, une formation spécifique à la bienveillance pour le personnel soignant, un débrief systématique post-opératoire si opération d'urgence il y a eu, et puis une plateforme en ligne permettra aussi aux patientes de publier leurs ressentis. Vous en pensez quoi, Alain Gagnon ? Il était temps ou...
Oui, je pense qu'il était effectivement temps de mettre fin à certaines pratiques qui sont pourtant interdites, hein, comme la patiente que l'on entendait parler d'appuyer sur son ventre pour faire sortir le bébé. C'est une pratique qui est théoriquement interdite par le collège des gynécologues.
Aussi pour qu'il sorte plus vite.
Voilà. Et effectivement, oui, il est temps de mettre en place ce genre d'attitude qui tiennent du bon sens, en fait. Bon.
Et une épisiotomie, on ne peut pas imposer une épisiotomie à une femme. Une femme ne veut pas d'épisiotomie, on lui fait pas d'épisiotomie. C'est ce qu'on appelle l'autonomie de la personne. La personne est une personne. Si vous faites une voie de fait, si je vous agresse dans la rue avec un rasoir et que je vous taille à de la face, je vais en prison.
Oui.
Mais un médecin qui fait une épisiotomie à une femme qui ne veut pas. Lui, il dit c'est pour le bien du bébé, c'est pour le bien de la femme, il n'y a pas de problème. Or, c'est exactement la même chose, c'est interdit par la loi.
Cela dit, on l'entendait d'ailleurs dans le formidable documentaire d'Ovidie, il y a des médecins qui disent oui, mais en même temps, on est soumis à des cadences infernales, on est crevés. Il y a aussi cette situation-là à prendre en compte. Je ne dirais jamais que rien ne justifie jamais de violenter une femme, on est bien d'accord. Mais est-ce que le problème, il n'est pas à prendre dans toute sa globalité?
Mais chaque personne est responsable de ce qu'elle fait. Chaque personne est responsable de ce qu'elle fait. Si vous, en tant que, si un médecin dit, c'est les cadences, ça veut dire que absolument tous vos gestes sont remis en cause. Il n'y a pas seulement les gestes que vous faites pour maltraiter quelqu'un. C'est-à-dire, ça veut dire à ce moment-là, vous n'avez plus de responsabilité individuelle. C'est inadmissible de dire une chose comme ça. C'est inadmissible.
Il nous reste à peine plus de 10 minutes à passer ensemble, alors on en profite pour nous écrire sur l'appli France Inter ou sur la page Facebook de Grand Bien Vous Vous Fasse, ou bien évidemment encore mieux pour nous appeler au 01 45 24 7000. Toutes vos questions, vos témoignages nous intéressent.
We'll be right back.
C'était Starcrawler, No More Penis. Vous êtes sur France Inter.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et ce matin, on met des mots sur ce qui nous fait mal. On parle de la douleur physique et de sa prise en charge avec nos deux spécialistes, Alain Gagnon et Martin Vinclair. Avec nous également Marine. Bonjour Marine.
Bonjour Julia, merci pour votre émission.
Mais merci à vous d'être avec nous. Alors vous, tout a commencé suite à votre accouchement. Vous ressentez des douleurs qui se prolongent, qui ne devraient pas être là. Je vous laisse nous raconter la suite.
Exactement. En fait, à la suite de mon accouchement, dès le lendemain, j'ai senti qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. J'avais des douleurs jusqu'au clitoris et à l'intérieur du vagin. Et ça a été un parcours du combattant pour être diagnostiqué. J'ai accouché avec un accouchement assez traumatique et assez compliqué par voie basse. Et ensuite, il m'a fallu aller voir énormément de médecins. Gynéco et généraliste me disaient « oui, c'est normal, vous venez d'accoucher, c'est normal ». Mais c'est pas normal d'avoir le clitoris qui est vraiment tout abîmé, etc., et toutes les parois. Et en fait, j'ai lu énormément et je me suis fait confiance pour pouvoir comprendre que j'avais quelque chose qui n'allait pas. Et je voulais, c'est assez banal souvent qu'on nous réponde, même les gynécos, c'est normal que vous ayez mal. Et finalement, en y vivant, j'ai compris qu'il y avait peut-être une névralgie pudendale. Et Une névralgie pudendale, le nerf pudendal, en fait, qui est bloqué.
Pudendal,
et
ouais.
En fait, il y a plein de personnes qui sont spécialisées pour finalement traiter tout ça. Uh-huh. C'est très difficile d'avoir accès à ces personnes, donc c'est plus de 6 mois d'attente. C'est une maladie qui met en général 4 ans à être diagnostiquée. Et ensuite, je voulais soulever la problématique de la prise en charge dans le sens où c'est très difficile d'avoir accès à ces médecins. Très difficile ensuite d'avoir un protocole, puisque ça demande beaucoup de ressources de temps, notamment le fait que moi je fais de la mésothérapie, de l'acupuncture, de l'hypnose, de la psychologie, pour essayer de m'en sortir. Ça demande des heures par jour, enfin par semaine d'investissement, et je fais énormément de routes pour me soigner sur la préfecture de ma région. Donc je fais facilement 200 km pour aller voir un médecin parfois plusieurs fois par semaine. Et je voulais souligner la difficulté de s'organiser en termes de timing. Moi, en ce moment, je ne travaille pas, donc je peux le faire. Mais je ne sais même pas comment je pourrais faire si j'avais un emploi du temps plus chargé. Et également la prise en charge financière. Puisque finalement, ce sont des protocoles qui ne sont pas du tout pris en charge. Et je ne trouve pas de mutuelle qui peut comprendre qu'on ait besoin d'aller autant chez des spécialistes non remboursés par la Sécu.
C'est ce qu'évoquaient nos deux invités tout à l'heure. Effectivement, à quel point une douleur peut impacter toute la vie, que ce soit une question de temps, que ce soit une question d'argent. Merci Marine d'être intervenue ce matin. Docteur Alain Gagnon, elle disait quelque chose qui, à mon sens, était important. Elle disait, faut se faire confiance. C'est important, selon vous, de se dire, oui, les médecins me disent, non, t'as pas mal, c'est dans ta tête, mais moi j'ai mal.
Oui, c'est elle qui ressent la douleur, donc c'est elle qu'il faudrait croire. Puisque personne ne la croit, elle est allée chercher l'information. Le livre, il est en partie pour ça, pour les personnes qui ne comprennent pas leur douleur. Elle parle de la névralgie pudendale. Alors la névralgie pudendale, c'est une douleur que l'on appelle neuropathique. C'est des douleurs chroniques qui peuvent apparaître après que l'on rencontre dans différentes situations. Ça va du zona à des interventions chirurgicales, à interventions chirurgicales comme la hernie discale, comme un syndrome du canal carpien. Ça peut être après une chimiothérapie. Donc on est dans un mécanisme douloureux qui va en fait durer si on le laisse perdurer, si on le prend pas en charge. Et effectivement, la névralgie pudendale est très invalidante. Elle est due en fait à une compression d'un nerf dans le petit bassin et qui fait que tant que cette compression persistera, les douleurs persisteront. Bien sûr, le problème, c'est plus la douleur va durer, plus il va y avoir ce que l'on appelle une hypersensibilisation à la douleur.
C'est ça, c'est ce que vous dites dans les maladies chroniques, c'est qu'en fait, on ne s'habitue pas à la douleur, contrairement à ce qu'on pense.
Non, pas du tout.
Le système nerveux dysfonctionne et va continuer à dysfonctionner. Ouais. Et pour cette patiente, donc, elle a mis en place, la névralgie pudendale, elle peut être par une compression du canal ou au canal d'Alcock dans le petit bassin, mais elle peut ne pas avoir de cause, Ça veut pas dire que la douleur n'est pas là. Et cette douleur, elle va envahir, comme toute douleur chronique, la patiente.
Sa vie sociale, sa vie affective.
Voilà. Et la prise en charge va être multidimensionnelle. Ouais. Il va falloir user de traitements, parfois médicamenteux, non médicamenteux, des thérapeutiques comme une prise en charge par la sophrologie, par la relaxation, par l'hypnose. Et effectivement, ce qu'elle dit, c'est que cette prise en charge ne sont pas remboursées et ça, c'est un coût pour chaque patient.
Et on en fera une deuxième émission. Allez, pardon, vous reconnaissez le générique de fin. Malheureusement, cette émission se termine. On a reçu beaucoup de messages. Je vous prie de m'excuser de n'avoir pu les lire à l'antenne, mais vous avez toutes les réponses. Je vous le dis, je l'ai lu dans ce livre. Tu comprendras ta douleur, édité chez Fayard. Martin Vinclair, Alain Gagnon, merci infiniment d'être passé nous voir. Merci. Julien Bisson, on vous retrouve très bientôt dans Grand Bien vous fasse. Quant à nous, évidemment, on se retrouve demain, je vous embrasse.